Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, bonjour à toutes et tous.
Oui, gris, c'est gris, et c'est fini, oh, 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 oh. Ça me rend fou.
Hervé, je n'ai pas pu m'empêcher de nous mettre dans l'ambiance. Noir, c'est noir au sommaire aujourd'hui de Variation en noir avec un livre, le roman noir, une histoire française. Un livre d'une universitaire, Natacha Levé, un livre publié aux éditions des presses universitaires de France, PUF. Un livre cependant très accessible et qui pose clairement ce qui peut être entendu par roman noir dans le spectre plus général de ce que l'auteur nomme les fictions criminelles, les littératures policières, dirait 813, et même au-delà dans la littérature tout court. Et puis nous évoquerons une figure importante du roman noir français, dixit Natacha Levé, Jean Mécquer, 1910-1995, à l'occasion de la publication aux éditions Joël Losfeld du 9e volume des œuvres de Jean Mécquer, La Lucarne, avec, excusez du peu, une présentation de Stéphanie Delestré et Hervé Delouche, oui, celui-là même sans qui cette émission n'existerait pas.
Je n'en veux plus dans ma vie, oh, oh, ça me rend fou de perdre ton amour, je te l'avoue. Maintenant, pour le sauver, à tout je suis prêt. Waouh!
Pas facile de résumer un tel livre, Hervé. Il s'agit bien d'une histoire française du roman noir ou d'une histoire du roman noir français. Et avant de parcourir les trois temps que repère l'auteur par rapport à ce roman noir français, Hervé, peut-être pouvons-nous commencer par un rappel de la place du roman noir dans la fiction criminelle. C'est ainsi que l'appel Natacha Levé, et puis revenir aussi sur l'apparition du nom même de noir, littérature noire, roman noir, film noir. Les fictions criminelles par rapport, toi Hervé, hein, en tant que membre de l'association 813, association des amis des littératures policières, entre fiction criminelle et littérature policière, est-ce que tu as une préférence ?
Ah, oui, je préfère la fiction criminelle, enfin le roman noir, celui dont nous parle Natacha Levé, mais ça n'empêche que je suis venu au genre tout gamin grâce à la littérature policière. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que le trajet lui-même de Natacha Levé, qui est vraiment qui est maître de conférence à l'Université de Limoges et qui a fait de nombreuses publications, conférences sur une thèse, enfin sur le roman noir et le polar français, c'est que elle a participé au dictionnaire de littérature policière, la grande œuvre de Claude Mesplède, et puis je crois que c'était en 2012, elle a publié chez Autrement un ouvrage qui était Sherlock Holmes de Baker Street au grand écran. Et c'était très intéressant parce que Sherlock Holmes, évidemment, c'est le grand mythe de la littérature policière, et en même temps, c'est le modèle, on peut dire, contre lequel s'est construit le roman noir. Voilà, à mon avis, un des points de départ particulièrement intéressants du livre de Natacha Levey, c'est que je ne dirais pas qu'elle tord le cou, mais on a très souvent une vision un petit peu mécanique, comme quoi il y aurait d'abord la littérature policière qui est née des nouvelles d'Edgar Poe, et puis en tant que roman français de L'affaire Le Rouge de Gaboriau dans les années 1860, et qu'après il fallait attendre le roman noir américain tel que le roman Hardball, tel qu'il naît dans les années 20 au moment de la Prohibition, avec la revue Black Mask, etc., pour voir un roman noir émerger, alors qu'en fait les choses ne sont pas mécaniques comme cela, et que bien évidemment il y a eu cette importance, on le verra à différents niveaux, de l'émergence d'un roman noir aux États-Unis, mais en même temps il y a aussi des prémices, il y a des germes de ce roman noir français. On peut remonter au roman gothique, mais de toute façon, sinon, dans le roman naturaliste et réaliste français du 19e, dans le roman des années 20-30 en France, mais voilà, et ça, Natacha Levey, dans les premiers chapitres, enfin disons, de son livre, on parle de manière totalement passionnante.
Oui, oui, elle fait d'ailleurs référence à ce qui pourrait être le premier roman noir français, paru en 1855, l'assassinat du Pont Rouge de Charles Barba
ouais.
qui aurait inspiré Émile Zola, et donc la littérature naturaliste très, très réaliste. Mais ce que je voulais dire par rapport aux fictions criminelles, c'est qu'elle explique, et c'est vraiment le début de son ouvrage, que en fin de compte il y a trois sous-genres. Alors bon, c'est toujours à mettre entre guillemets, mais il y a le roman policier classique à énigmes, il y a donc le roman noir, et il y a le thriller. J'aimais bien la formule de François Guérif, alors qu'il était venu à Arras il y a quelques années, qui expliquait que bon, le roman policier, c'est effectivement le roman du policier, de l'enquête, résolution d'une enquête. Le roman noir, c'est le roman du criminel. Et le thriller, suspense, roman suspense, c'est le roman de la victime. Je pense que ça situe bien les choses, et quelque part, Natacha Levey s'inscrit aussi dans cette logique. Et en tout cas, elle, ce à quoi elle s'intéresse, c'est vraiment le roman noir, même si elle le met en perspective, en relation avec les deux autres sous-genres, et surtout avec le roman policier. Mais on est bien dans ce que l'on appelle le roman noir, Hervé.
Bah oui, tout à fait, tout à fait. Quand je disais tout à l'heure, de manière un peu provocatrice, que justement le roman noir s'était construit contre le Sherlock Holmes en tant que mythe de l'enquêteur, c'est parce que ce qui définit le roman d'énigme, y compris le meilleur roman d'énigme, à mon avis, c'est le cas de Sherlock Holmes, par exemple, mais c'est, on a un détective qui sait tout, on a une énigme à résoudre, on a une société à défendre, quoi qu'il en soit, même quand c'est le cas des aventures de Holmes, quand la police est débordée, et il s'agit quand même de restaurer un ordre, il s'agit que la raison triomphe, alors que le roman noir, on est schématique là en disant ça, mais il va plutôt vers le désordre, il va décrire le chaos, il va tenter d'expliquer le désordre, et il ne cherche en aucun cas à rassurer le lecteur. Et ça vaut même pour les romans, parce que, évidemment, ça se complexifie quand on a, je sais pas, là je prends un exemple américain, mais par exemple Raymond Chandler, qui met en scène un enquêteur bien connu, Philip Marlowe, mais en fait, très, très vite, on ne sait plus très bien où on est, et ce n'est pas ça l'important. Voilà. Et à la fin d'un livre de Raymond Chandler, le lecteur n'est pas rassuré dans ses pantoufles.
Alors, Un mot quand même aussi sur l'appellation elle-même, roman noir, qui est finalement une invention française avec un moment clé, une pierre angulaire de la construction française de l'idée de roman noir. C'est Jean-Patrick Manchette qui est sans doute un des premiers à évoquer le mot roman noir. En expliquant la visée critique, démystificatrice de la réalité sociale et politique, l'ancrage réaliste de l'écriture, la dimension désenchantée et pessimiste du propos. Mais surtout, l'appellation, elle vient aussi de l'après-guerre, avec de nombreux films américains qui arrivent en France, et que la critique française finit par nommer des films noirs.
Oui, ça c'est particulièrement intéressant, c'est la fameuse année 1946, c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu la libération, il y a une demande très forte évidemment de ce qui est américain, il y a les accords du plan Marshall, et il va y avoir, soudain vont sortir sur les écrans des films de John Huston, d'Otto Preminger, de Dmitrich, de Billy Wilder, de Fritz Lang, etc., qui vont amener. Et je crois que c'est deux critiques, Borde et Chaumeton, qui vont faire un livre aux éditions de Minuit d'ailleurs, qui s'appellera Panorama du film noir. Et à partir de là, l'expression de film noir, c'est un effet boomerang assez intéressant et amusant. Elle sera reprise d'ailleurs aux États-Unis. Elle fonctionne toujours aujourd'hui. Tarantino parle du film noir, etc., etc.
Ouais. Et donc, de film noir, on est passé aussi à roman noir, parce que la collection de référence quand même après-guerre, c'est la série noire, hein, qui est créée par Marcel Duhamel aux éditions Gallimard en 1945. Quand Marcel Duhamel présente cette collection, et même jusqu'à la fin des années 40, il n'est pas question de roman noir. Il ne parle pas de roman noir. On parle de série noire, de romans policiers, de romans d'action, etc. Mais on ne parle pas encore de roman noir.
Non.
En tant que tel, en termes d'appellation.
Tout à fait. D'ailleurs, ouais. Marcel Duhamel, il est auteur d'un manifeste de la série noire où le terme roman noir n'apparaît pas, si je me.
Oui, tout à fait. Elle le reprend, Natacha.
Voilà.
Le
série noire va devenir, va s'écrire, assez rapidement sans les majuscules, comme un terme générique, même pour définir des livres qui paraissent ailleurs, puisque la série noire, évidemment, va être la pièce maîtresse et la pièce fondatrice, et va aussi imprégner et donner une certaine direction pendant un temps au roman noir français, typiquement français, mais cela dit, d'autres collections mettront ensuite aux Presses de la Cité ou au Fleuve Noir notamment.
Voilà. Alors, la construction de ce roman noir, les filiations qui amènent à ce roman noir français, c'est assez complexe, parce que il y a plusieurs influences, deux grandes influences: le roman noir américain des années 20-30 en pleine prohibition avec Dashiell Hammett, mais aussi il y a une veine tragique, pessimiste, et Natacha Levé a nous donne un schéma. Alors à la radio, c'est jamais facile d'évoquer un schéma, hein, mais qui montre bien la complexité de cette construction du roman noir français, où on part du roman gothique anglais, du romantisme, du roman populaire, roman feuilleton, du western aussi, du roman policier en tant que tel, du roman réaliste, du roman naturaliste, Émile Zola, du roman prolétarien, du réalisme poétique, Céline, etc. Et donc, vraiment des influences multiples, et quand ce roman noir français va commencer à exister, juste avant la Deuxième Guerre mondiale et après, il y a ces deux tendances: d'un côté la veine tragique, pessimiste, roman social, avec des auteurs qu'elle cite, Simenon et Mecker. Simenon pour ses romans, ce qu'on appelle ses romans durs, et Mecker, Jean Mecker, dont nous allons parler aussi un peu ensuite. Et de l'autre côté, Une imitation du roman noir américain avec Léo Mallet, et elle date hein, de la naissance de cette veine du roman noir français en 1943 avec la publication de 120 rue de la gare Léo Mallet. Donc un mélange et deux veines, Hervé, par rapport à la construction du roman noir français.
Ah ben tout à fait, tout à fait. C'est intéressant ces auteurs que tu cites parce que effectivement ils se situent ou avant ou tout au début des années 40 pour le cas de l'apparition des coups de le premier roman de Jean Mecker qui deviendra Jean Amila à la série noire. Simenon a commencé un peu avant. Léo Mallet. Alors Léo Mallet c'est très intéressant parce qu'il est totalement à cheval sur les deux,
oui.
Puisque d'un côté, il y a sa trilogie noire, qui est totalement dans la veine du roman tragique, pessimiste, réaliste, et il y a d'un autre côté ce qu'il va publier sous l'occupation, sous pseudonyme, sous les pseudonymes de Frank Harding ou Léo Latimer, et qui là sont du parodique complet du hard-boiled américain, et puis même Nestor Burma qui aura à la fois l'influence des détectives américains, mais aussi du surréalisme, avec certains jeux avec le langage, avec les situations, les mots, avec une tradition aussi des mystères de la ville, apparue à la fin du 19e, avec le grand développement des villes, puisque les nouveaux mystères de Paris, enfin les aventures de Nestor Burma dans les arrondissements de la capitale, font écho à cela, enfin, c'est des auteurs qui sont les prémices d'un roman noir français, absolument, avant qu'apparaisse la série noire à l'intérieur de laquelle il y aura les premiers auteurs français.
Voilà. Alors donc, elle, Natacha Levé évoque trois temps l'histoire du roman noir en France, de l'avènement à l'âge d'or du roman noir français de 1945 à 1968, vers un roman noir critique de 1968 années clés, 1968 à 1989, et enfin le roman noir Histoire criminelle de la France de 1990 à 2023. Alors le premier temps après-guerre, on a commencé déjà à l'évoquer, et on a un roman noir français qui est marqué par là aussi de veines, le roman du truand, hein, Touchez pas au Grisby, les tontons flingueurs, etc., en étant complètement dans cette veine-là, avec une forme de mise en avant de la virilité, du machisme, violence, et face
oui,
à...
Oui, de l'argot,
voilà.
un argot qui d'ailleurs est un argot travaillé, en fait, qui est un argot inventé. Audiard s'est fait une spécialité de cela, mais effectivement, oui, c'est ça, c'est toute cette période qu'on appelle, pour le meilleur et parfois le moins bon, l'épigallerie, oui, absolument.
Oui, c'est ça. Et on a toujours en parallèle quand même, bon, ben, Simenon, bien sûr, et Mecker, hein, qui continue, Mecker qui aura fait son entrée à la série noire sous le pseudonyme, au début, de John Amila, puis Jean Amila, qui sont plus sur des logiques de anti-héros quelque part. Hein. On a toujours ces deux veines. Une période marquée aussi par trois éditeurs, donc la série noire, Fleuve Noir, Presse de la Cité, avec des auteurs que l'on peut qualifier de forçats. L'expression a déjà été... été donné à de nombreuses reprises, les forçats de l'Underwood, mais il y a un auteur de cette période qui lui donne se décrit d'une manière aussi intéressante en parlant d'écrivain en bâtiment, et on est vraiment là. Et d'ailleurs à cette époque on lit plus une série noire ou un fleuve noir que un auteur que Jean Amila ou je ne sais qui. On est vraiment dans une période marquée par ces collections finalement.
Bah oui, parce que déjà, la série noire elle-même, elle a évidemment tout le mérite qu'on lui connaît. Et d'un autre côté, elle a imposé aussi une espèce de formatage quand même. C'est-à-dire que, y compris d'abord, elle est créée avec cette idée de publier des auteurs américains, mais elle commence quand même avec Peter Cheney, qui n'est pas américain. Et puis il y a, ça c'est anecdotique, mais il y a surtout le fait qu'elle va imposer une longueur. Je crois que les livres ne doivent pas dépasser dans les 260 pages ou un truc comme ça. Les livres vont privilégier l'action aux dépens de l'analyse psychologique ou de trop longues descriptions. C'est ainsi que des romans, alors certains romans d'ailleurs, comme parce que Dashiell Hammett ou Raoul Whitfield ou Horace McCoy, ils avaient certains de leurs livres avaient été publiés avant la Deuxième Guerre mondiale,
oui.
Chez Gallimard, notamment à la NRF, mais pas uniquement, quand ils reparaissent en série noire, là, on révise leur traduction pour que ça colle plus avec quelque chose de d'action. On met en avant la bagarre. Marcel Duhamel le dit plusieurs fois dans les textes qui accompagnent les livres. La violence, se parler argotique qui parfois est une pure invention française, n'existe pas toujours. Et puis ce choix des titres qui évidemment aujourd'hui a une poésie absolument étonnante, mais comment Grim Ice de Raoul Whitfield, série noire numéro 46, devient vivement mes pantoufles, le point d'exclamation. Voilà, c'est-à-dire que on a un esprit série noire, on a une sorte de formatage. Il y a des livres qui ont été amputés parfois jusque à un quart de leur longueur. Donc voilà, c'est une époque qui veut ça.
Ouais, c'est marrant Hervé, parce que tu parles des titres et il y a de belles anecdotes hein, dans ce livre qui est vraiment très accessible, hein, qui se lit facilement, qui fait le parallèle
ah oui,
aussi.
C'est un vrai plaisir.
Ouais,
il faut quand même toujours le dire, c'est-à-dire que ça c'est les plaisirs. Il ne faut pas que l'éditeur, qui est tout à fait respectable, mais les presses universitaires de France ne nous donnent pas à lire là, même que c'était le cas avec les livres de Benoît Tadier sur le polar américain, avec le livre de Natacha Levet sur le roman noir, une histoire française. On n'est pas du tout dans des textes qui surplombent le lecteur et qui l'assomment avec des termes.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'érudition, mais il n'y a rien d'indigeste. Et au contraire, en
absolument.
Plus, il y a un lien avec l'évolution de la société hein, tout au long de ces années, de la société française, et puis des anecdotes. Et je pense à une des anecdotes là, que nous donne l'auteur liée au titre de la série noire, puisque un lecteur a envoyé un courrier à Marcel Duhamel. Ouais. Monsieur, je me suis laissé dire que vous recherchiez pour votre série noire des titres suggestifs. C'est pourquoi je me suis permis de vous en adresser quelques-uns. La ratatouille pour les marmites, pas d'entourloupe avec Mézig, les aimes le froid, etc., etc. Et toute une série de propositions de titres. Et Marcel Duhamel lui répond, non sans mauvaise foi, effectivement, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'il est difficile de choisir parmi une liste déjà établie, car nous sommes obligés de tenir compte du roman. Donc, beaucoup de...
La mauvaise foi, elle est même totale, parce que c'est quand même l'éditeur qui répond cela, et le même qui a donné comme titre un roman, un excellent roman d'ailleurs de Robert Finnegan, Les spaghettis par la racine.
Oui, c'est ça,
quand même
voilà.
Juste... n'a absolument rien à voir avec le contenu du livre qui ne parle pas de spaghettis, pas de racines, pas de...
Alors, on en arrive au deuxième temps, hein, vers un roman noir critique à partir de 68. Donc là, c'est ce qu'on appelle la veine post-68, l'apparition aussi du mot polar, puis néopolar, encore une fois à la baguette manchette, qui est vraiment un personnage clé dans le roman noir français, à la fois en en tant qu'auteur, mais aussi en tant que en tant que commentateur
du genre.
Ouais, enfin, voilà, analyste, etc. C'est quelqu'un qui a une réflexion aussi sur l'écriture, donc et les influences historiques du roman. Donc là, on est sur une veine critique sociale, la veine prolétarienne, roman du réel. C'est la fin des Trente Glorieuses, le désabusement, violence criminelle en réponse à la violence d'État, l'influence du situationnisme, etc. Il y a beaucoup de choses, mais un roman témoin de son temps, pour reprendre l'expression de Manchette. Mais en parallèle, il y a toujours une veine dans le roman noir, une veine réactionnaire avec les collections SAS, Anti-Gang, Brigade Mondaine, où là, on est vraiment dans un roman, l'auteur écrit roman noir s'y affirme comme ouvertement sexiste, homophobe, raciste et anticommuniste, et tire profit de la libération de la pornographie. C'est un peu quelque part la série noire, même si dans la série noire on trouve ce type de roman, contre des séries populaires. Hervé.
Bah oui, qu'ajouter à cela, oui, c'est évident, et à côté de ça, on a des auteurs, c'est encore intéressant de voir l'influence, je repensais à Billy the Kick, par exemple, de Jean Vautrin, mm-hmm. Qui fait écho à Bulletin Rouge et Billy the Kick, les deux premiers romans noirs de Jean Vautrin, ils font écho à cette littérature populaire du 19e où il y avait eu l'émergence de l'imaginaire des faubourgs au-delà des barrières d'alors et qui va se transposer à partir des années 60-70, qui devient un imaginaire des banlieues, enfin disons que voilà, le roman noir, il va continuer sa route à la série noire et ailleurs à partir de la fin des années 70. Mmh. Il y a d'autres des collections qui font bouger un peu le cocotier, Sanguine chez Fauteuil, Engrenage, voilà. Mais enfin, il est évident que ça n'empêche pas qu'existe un versant, comme tu le dis, sexiste, réactionnaire, pour ne pas dire plus. Mmh. Oui.
Qui va donc s'estomper à la fin des années 80. On en arrive donc là à la dernière phase, un roman noir, Histoire criminelle de la France, de 1990 à aujourd'hui, où là, le roman noir qui a été porté par deux collections importantes, donc toujours la série noire et Rivage noir, plus d'autres éditeurs qui ont aussi développé des collections avec une attention pour ces dernières années à l'écriture. On n'est pas sur de l'automatisme, hein, sur des romans calibrés, etc. Il y a vraiment un souci de l'écrit chez de nombreux éditeurs, mais là il y a plus une concurrence avec le thriller, le roman suspense, le roman de la victime, qui a vraiment le vent en poupe, hein, pour ces dernières années, Hervé.
Oui, c'est évident que j'allais dire que le roman policier au sens pur, il a repris une certaine santé l'arrivée de pas mal de flics ou d'anciens flics qui écrivent des polars plus ou moins intéressants. Enfin, la question étant, qui à mon avis n'a guère à voir avec les littératures, c'est pas parce que des gens ont connu un métier que ça en fait des écrivains intéressants, mais ça c'est un autre débat. Mais le thriller est est aussi un roman qui a le vent en poupe. Je ne saurais pas trop quoi dire à ce sujet-là, parce que bon, c'est pas ni la littérature policière au sens strict, ni le thriller ne sont le thriller au sens hein, pas du tout au sens de Rivage Thriller, hein, mais au sens d'une littérature de comment dire de page turner qui joue sur l'émotion. Et bon, c'est-à-dire d'un côté on a une littérature qui se veut cérébrale, de l'autre une littérature qui est celle des sens. Bon, voilà, moi je pense que le roman noir, il a, je ne sais, c'est peut-être pas celui qui est le plus massif aujourd'hui, mais en même temps, il est d'une grande richesse aujourd'hui. C'est une littérature je crois que Natacha Levé dit cela, c'est une littérature du soupçon qui va vraiment qui d'un côté est une littérature à hauteur de ces personnages, hommes et femmes. En cela, il y a un écho avec un versant du roman noir américain qui était celui porté par Jim Thompson et Horace McCoy, par exemple, et qu'a repris, avant qu'existe la série noire, hein, Jean Mecker, par exemple, c'est-à-dire ce roman des humbles, des gens d'en bas, si on peut dire, hein, oui. Et qui, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés à des événements dramatiques, tragiques, sont ballottés par la société dans laquelle ils vivent. Ce roman du cette littérature du soupçon, elle va aussi disséquer justement la société dans laquelle ces êtres vivent, et c'est ce qui me paraît le plus intéressant, de même qu'il y a une veine aujourd'hui d'un roman noir qui fouille l'histoire, mais qui n'est pas du polar historique en costume, qui fouille l'histoire parce que c'est là qu'elle va chercher dans les plaies, dans ce qui n'a pas été forcément raconté, et elle va peut-être y trouver des clés pour le présent. Et voilà, je pense à l'inspecteur Sadorski.
Romain Slocombe.
Sous la collaboration de Romain Slocombe, je pense au roman de Gwenaëlle Bulto, et je pense bien évidemment à une certaine partie des romans noirs placés dans l'histoire, que ce soit La Commune ou Les Lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Les Prémices de la Guerre d'Algérie, chez Hervé Lecor, par exemple.
On peut parler de contre-récit, hein, cette dernière période. L'auteur évoque une littérature du dévoilement et de la remédiation, un roman politique, politisé, pas nécessairement, et partisan, surtout pas. Alors peut-être pour conclure, Hervé, nous allons citer la définition, une forme de définition du roman noir que donne Stéphanie Delestré, avec qui tu as signé la présentation de La Lucarne de Jean Mecker. Nous allons y revenir rapidement dans la foulée. Elle explique que le roman noir n'est pas un roman de genre. La différence avec le roman policier, c'est qu'il n'y a pas de cadre générique. Moi, vraiment, je continue à penser que le roman noir est un roman de l'excès, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès des représentations, des sentiments. C'est toujours des situations de crise qui sont psychologiques, personnelles, politiques, sociales, mais on est toujours au-delà du raisonnable. Stéphanie Delestré, qui dirige la série noire et qui a relancé une collection La Noire, qui s'inscrit vraiment dans cette tradition du roman noir français. Même si on l'a compris, le roman noir français est plein de contradictions entre un côté populaire et réactionnaire, influence américaine, fibre française, anti-héros, héros, que finalement Johnny Hallyday, en introduction hein, de cette émission, symbolise parfaitement.
Ben oui, Johnny Hallyday, chanteur très français, et en même temps, je crois que Noir c'est Noir reprenait un morceau américain en VO, si je ne m'abuse.
Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Je suis suis un faux-rien, oui je le sais bien, mais tout de même jamais je n'aurais fait ce qui mène ici sans ce chat maudit. Un chat qui miaule, je vous jure, ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance tel une démence troublant le silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est presque un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous tordrait le cœur, on a peur. Après l'étude des habitudes du Richard de Neuilly, par la fenêtre.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir, un chat qui miaule, une chanson créée par Fréhel dans les années 30 et reprise ici par Renaud.
Une chanson. C'est un lien très excellent, d'autant qu'en plus Renaud, en tout cas dans un peu plus jeune, était un grand lecteur de la série noire que je crois il collectionnait.
Oui, et puis qui a évoqué pas mal de anti-héros, hein, sa chanson Les Charognards, le Gérard Lambert, le dernier bal,
oui.
Etc. Et ici, on est vraiment donc dans une chanson, chanson réaliste des années 30, qui une chanson emblématique de la poisse quelque part. Et on peut considérer que Édouard Gallois, le personnage créé par Jean Mécaire dans la Lucarne, incarne aussi cette poisse. Nous sommes juste avant-guerre, les années 37, 38, et Édouard Gallois est au chômage, Hervé.
Oui, il est au chômage, on en parle d'ailleurs dans la préface, je crois qu'on l'ouvre là-dessus. Il est au chômage et il traverse de Belleville jusque à Boulogne-Billancourt où face à l'usine Renault, il vend des cravates et des maillots de corps à la sauvette, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un monde ouvrier qui est encore, même si le Front populaire agonise, qui est encore en ébullition, et en même temps il est exclu même de cela, car il n'a presque plus rien, il n'a plus beaucoup non plus l'amour de sa femme qui gagne la vie du ménage et qui se lasse de ce compagnon qui va prendre comme une espèce de... C'est une marotte qui devient une obsession, c'est-à-dire cette idée qui lui vient un jour où dans sa traversée de Paris, qui est de comment former une grande armée de la paix.
C'est
alors
ça.
Que d'un autre côté, la venue de la guerre gronde un peu quand même. Hein.
Oui, et puis avec un paradoxe aussi, parce que tout en cherchant à s'engager pour la paix, ce personnage est traversé par un besoin de vengeance qui va jusqu'à la volonté de tuer, hein, qui vise sa femme.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est la force aussi de ce roman,
ouais.
Qui est un roman noir, à mon avis, mais qui est... On est toujours à deux doigts d'eux et puis ça ne se... On va pas tout dévoiler,
non.
Mais ça ne se produit pas forcément.
Oui, oui.
Voilà.
Crime et châtiment sans crime, quelque part.
Absolument.
Et,
je ne sais pas s'il y a un châtiment, si ce n'est celui que le personnage s'adresse à lui-même.
Tout à fait. Et quand même, oui, on peut le dire. Un roman aussi, alors, c'est l'auteur lui-même qui évoque ce mot, et je trouve que ça peut aussi coller avec le roman, une forme de roman noir, le roman du quelconque. Il écrit, Jean Mécaire, l'inconvénient avec sa nouvelle émotion extraordinaire, c'est que le quelconque prenait autour de lui une redoutable importance. Tout venait s'y noyer comme s'il avait besoin d'oublier de vivre. Roman du quelconque, La Lucarne, Hervé.
Ah oui, tout à fait, de même qu'à la fin où il y aura... j'allais dire, il va, lui qui rêve d'une armée de la paix, si on peut dire, va rentrer dans le rang, mais il, Mecker écrit, il est redevenu bonhomme, c'est-à-dire que il est un parmi, parmi la foule d'autres, ça fait partie de, c'est le troisième roman publié en blanche de Jean Mecker.
En 1949, hein.
Je crois que c'est en
un peu avant.
Les coups paraît en 41,
ouais.
L'homme au marteau en 43 et je crois que celui-là paraît en 45 en fait.
Publié en 45, effectivement, c'est ce que vous expliquez oui. dans la. Oui, c'est 1945. Voilà. Vous expliquez
et
ça très très bien dans la présentation.
C'est ce que Mecker appellera un triptyque de l'échec, c'est-à-dire que oui, c'est un voilà, c'est. Et il écrit avec des choses aussi, avec tout ça est totalement, c'est du roman, mais en même temps, on est très proche, il y a une authenticité et du langage, et aussi du récit, parce que, quand il est question de Belleville, de l'usine, Mecker a connu ça très jeune, et puis il a aussi connu le chômage, les boulots de camelot et autres, avant de devenir écrivain. Et donc, il y a comme ça une espèce d'attention. On est, ce que je disais tout à l'heure, on est typiquement à hauteur de son personnage, avec aussi un regard qui est peut-être, qui ne se moque pas d'Édouard Galois, mais qui est quand même, qui va montrer aussi ses paradoxes et puis peut-être le côté vain de sa quête puisque Édouard Galois est pacifiste mais n'est content d'aucun des mouvements pacifistes qui existent à l'époque et qui sont puissants malgré tout
et nombreux
et voilà et donc on a plutôt le destin d'un homme ballotté dans sa vie de couple, sa vie amoureuse, il va être ballotté entre ses idées, c'est un personnage qui ne se trouve pas, enfin.
Bah, justement, pour faire le lien avec le livre de Natacha Levé, le roman noir, elle écrit « Les personnages du néo-polar ne sont pas seulement construits sur un mode naturaliste et prolétarien, ils sont déterminés par leurs conditions sociales et privés d'espoir et d'idéal. » Ainsi que l'écrit Ernest Mandel, un économiste qui a commenté le roman noir, qui dit « Les personnages, y compris ceux ou celles avec lesquels les auteurs paraissent s'identifier, y a quelque chose de ça aussi dans La Lucarne, sont marqués par le doute, l'hésitation, le sentiment d'impuissance, le remords, l'ambiguïté, la culpabilité, un tantinet de paranoïa, sinon de haine de soi-même. Encore une fois, l'après mai 68 est passé par là, écrit Ernest Mandel. Mais là, ce livre, il est écrit dans les années 40, ce livre de Jean Mecker, et il colle complètement à cette vision du roman noir.
Ben oui, parce que Mecker, il ne sort pas du tout guilleret de la. C'est écrit au moment de la libération, mais Mecker, il est même si le livre se passe avant la déclaration de la guerre, le roman est écrit à la fin, mais en même temps, il est totalement marqué, il le sera toujours jusqu'à la fin de sa vie par l'horreur absolue de la guerre, par les camps d'extermination, par la bombe atomique, qui est une chose qui va le hanter complètement et donc sa détestation de la guerre et du militarisme fait que La Lucarne est un livre qui aborde ces thèmes-là et après thèmes qui reviendront quand il signera des romans noirs sous le nom de Amila, hein, je pense au Boucher des Hurlus, au Balcon d'Hiroshima, à la Lune d'Omaha, mais il est est évident qu'il aborde pour la première fois ce thème-là, et en même temps, c'est des livres d'un pessimisme radical.
Alors donc, Jean Mécquire, La Lucarne, aux éditions Joël Losfeld, une très belle collection, c'est le neuvième volet des œuvres de Jean Mécquire.
Présenté... Oui, on a commencé ça il y a 20 ans.
Voilà, fait. Avec Stéphanie Delestrée et Hervé, hein, oui. vous présentez. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres encore qui vont être publiées dans cette collection de Jean Mécquire?
On a eu la chance et la joie de trouver un inédit par lequel avait commencé ce travail, qui était qu'on a appelé la Marche au canon. Mmh. Et puis après, on a republié les 8 romans qui étaient parus en collection blanche, à part Les Coups, qui a toujours été réédité en folio, mais c'était le seul. Il reste un roman signé Mécquire qui est La Vierge et le Taureau, mais qui est paru aux presses de la Cité. À l'heure actuelle, je ne sais pas si...
À suivre, peut-être. Et ça, c'est, voilà, là, c'est sur les essais nucléaires.
Le suspense existe encore ouais. là-dessus. Il y aura évidemment des choses, puisque c'est à la suite... Enfin, ce roman, il a une histoire particulière. Et puis, on sait que Jean Mécquire a été agressé après l'apparition de ce livre. Il y a eu longtemps... une version comme quoi il aurait été agressé à cause de ce livre qui est un roman plutôt d'espionnage, mais qui parle des essais nucléaires vers Mururoa et tout ça dans le Pacifique, mais peut-être la version est-elle plus banale que cela, mais en tout cas il a beaucoup été écrit sur ce sujet-là, mais voilà, pour l'instant je n'ai pas la réponse.
D'accord, donc à lire hein, Jean Mécquire, La Lucarne, bien entendu, et puis le roman noir,
et puis le roman noir de Natacha Levey
nous l'ont pas dit, mais vraiment on apprend tout hein, sur ce qu'est le roman noir, ce qui est important quoi. On en lit, mais quand on s'intéresse simplement à la littérature, et puis il y a énormément aussi d'innombrables pistes de lecture avec quelques jalons qui font figure d'incontournable pour avoir une bonne représentation du roman noir français. Donc voilà, vraiment un livre à lire, à avoir dans sa bibliothèque. C'était Variation en noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard. Bonne lecture à toutes et tous. Et oui, profitez de toutes ces pistes qu'ouvre Natacha Levey. Et puis lisez Jean Mécquire également.
Voilà, et rendez-vous dans un mois.